Oui, alors je vous présente mes invités tout de suite. Julia, Sandrine Lefranc, bonjour.
Bonjour.
Donc, je disais tout à l'heure, vous travaillez au CNRS et vous êtes l'auteur d'un livre, Politique du pardon, qui est paru au PUF, aux presses universitaires de France, et vous vous intéressez à ces phénomènes, on va dire, où on essaie de réconcilier des parties de la population qui se sont déchirées pendant des années, et pas uniquement en Afrique du Sud. Hein. On va y revenir dans un petit instant ensemble. Et puis, Tristan Mendès-France, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain, et cinéaste parfois aussi, hein, puisque vous avez publié aux éditions Favre « Docteur la mort », enquête sur un bioterrorisme d'État en Afrique du Sud. C'est l'histoire, mais vraiment racontée dans le détail que je viens d'évoquer à l'instant. Et puis, je crois que quelques années après ces événements, vous avez à l'époque réalisé un film. Vous êtes allé enquêter sur place en Afrique du Sud. Vous avez voulu rencontrer le fameux docteur Lamort. Vous avez voulu aller voir de vos yeux à quoi ressemblait ce laboratoire qui nous paraît impensable finalement. Juste un mot, vous avez pu vérifier donc sur place, Tristan, la réalité de tout ça.
J'ai le triste privilège d'avoir effectivement rencontré le docteur Lamort, de l'avoir rencontré au sein du prétoire à Pretoria et de lui avoir serré la main. Oui. Ce qui m'a beaucoup inquiété, je dois dire que je me suis lavé les mains juste après. La parano est là, j'avoue, pour vraiment dire la vérité. Donc j'ai le triste privilège d'avoir croisé, effectivement, et d'être allé aussi dans ces laboratoires qui n'étaient plus opérationnels quand j'y suis allé, mais c'était là-bas qu'il avait effectivement commencé son triste programme.
Ouais. On peut revenir quelques instants, d'ailleurs tous les deux, parce que Sandrine Lefranc, vous suivez évidemment de très près tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud, et puis on parlera ensemble de cette commission Vérité-Réconciliation. Quand on entend ce que je viens de rappeler, quoi. On se dit, on est dans la rumeur, on est dans la folie, on est vraiment les gens qui avaient organisé l'apartheid étaient vraiment pires que les nazis. Est-ce qu'il y a eu de l'exagération? Est-ce que tout ce dont on a parlé là était fondé vraiment sur des documents?
Oui, tout ça est parfaitement attesté, mais ça n'est que
une toute petite partie.
Enfin, c'est le crime parfait qui a été commis dans une forme de répression systématique, de spoliation quotidienne. Enfin voilà, mais tout ça est parfaitement avéré.
Ouais, et on en a, j'ai même pas tout dit hein, sur les armes et les outils mis au point par le docteur Lamort.
Le propre de ce projet, c'est d'essayer d'éliminer les gens sans qu'on sache de quoi ils sont morts ou qui est à l'origine de leur assassinat. Ouais. Donc évidemment, j'ai pu effectivement parler à certains magistrats en Afrique du Sud. Ouais. Ils ne savent pas. On ne sait pas combien de personnes ont été tuées dans le cadre de ce programme.
Ça a certainement été comptabilisé dans des morts naturelles, quoi.
Absolument.
Mais ces gens sont allés jusqu'à mettre, par exemple, dans des paquets de lessive en poudre, des produits qui ont certainement tué des femmes et des enfants.
Je crois qu'on ignore si le programme a été mené et accompli.
Voilà, on sait qu'ils y ont pensé, on sait qu'il y a eu des tests.
On sait que le budget gouvernemental existait, et ça aussi c'est assez troublant. On ne sait pas dans quelle mesure cela a apporté ses fruits. On ne sait de toute façon pas combien de morts peuvent être recensées à l'échelle de l'Afrique du Sud pour toutes les formes de répression.
Ouais, parce qu'il travaillait, ce docteur Lamort, aussi pour les services secrets. De manière générale, on a trouvé les parapluies bulgares. Tout le monde se souvient du parapluie bulgare, il en avait fabriqué.
Oui, c'est effectivement l'un des indices. Enfin, les indices qu'on a pu trouver, on a retrouvé les armes.
Ouais. Des tournevis piégés.
Des cannes qui sont en fait des choses qui permettent de tirer des petits projectiles. Ouais. Donc on a retrouvé tout ça. Et c'est des choses opérationnelles. Ce n'est pas des choses expérimentales. Ouais. Donc on sait qu'ils ont vraisemblablement utilisé, on ne sait pas sur qui, certains de ces objets-là, dont on a retrouvé encore une fois le détail. Des tournevis empoisonnés qui avaient déjà été utilisés. Et dont on voit face caméra durant la commission réconciliation le détail avec le juge qui explique comment est-ce que on doit opérer pour planter quelqu'un avec ce tournevis empoisonné. Donc on a les outils. Encore une fois, le seul problème, c'est qu'on ne sait pas combien de personnes ont pu être éliminées.
Alors, avant d'aller plus loin, on va se retrouver pour la deuxième partie de l'émission dans 3-4 minutes après le flash, et on va parler de tout ça en détail. Mais d'abord, la question que tout le monde se pose après avoir écouté ce récit, comment cet homme est passé à travers les mailles de la justice? Parce que la commission Vérité-Réconciliation, Sandrine Lefranc, n'était pas un tribunal pour juger les gens. Hein, on est bien d'accord.
Pas un tribunal pour juger les gens, mais était une façon de tribunal pour les amnistier. Donc d'une certaine manière pour les personnes.
À condition qu'ils aient le courage d'affronter ce qu'ils avaient fait ou
Vous utilisez des mots, enfin le courage sur leur moralité, c'est plutôt tout simple. On leur demandait de faire la révélation exhaustive des crimes commis et des actes.
Voilà. Même s'ils disaient, mais c'est pas moi, j'ai oublié aux ordres. Enfin,
bien sûr, on leur demandait pas de dire à quel point ils avaient été sincèrement.
Mais ils ne risquaient pas le peloton d'exécution ni de longues années de prison. C'était pour. Il fallait qu'ils assument Et ensuite, on voyait si on pouvait...
Il fallait qu'ils racontent, qu'ils assument, qu'ils se repentent, c'est une autre affaire. D'accord, qu'ils racontent de manière à ce qu'on puisse établir les faits. Ouais. Et à partir de là, si les faits étaient conformes à une nature politique du crime, ils pouvaient dormir tranquille.
Dormir tranquille, et on a indemnisé leurs victimes. C'était aussi l'autre facette, hein, je crois.
En fait, il y a trois facettes dans le travail de la commission. Il y a d'abord faire l'histoire, raconter ce qui s'était passé, raconter ce qui s'était passé à l'échelle de la société sud-africaine et pour certains cas de crimes, de criminels, de victimes, réparer les crimes et amnistier. Pour les réparations, il y a eu une politique très ambitieuse qui a été conçue par la Commission de vérité et réconciliation, mais les réparations ont été très tardivement versées pour un fragment seulement de ce qui était prévu initialement. Donc là, les victimes ont été très fortement déçues.
Mais Tristan Mendès-France, je parlais de la Haute Cour, donc il a été mis devant un tribunal, cet homme-là.
Oui.
Et alors, je parlais d'un procès scandaleux, c'est ce qui ressort de tous les articles que j'ai lus sur place. C'est vrai que le président, par exemple, a passé son temps à aller dans le sens de l'accusé et non pas d'accusation.
Je pense qu'une chose qu'on peut dire très simplement, c'est que le juge qui a jugé le docteur Wouter Basson a été nommé sous l'apartheid, tout simplement. Donc c'est un juge de l'apartheid qui a jugé un collègue à lui, entre guillemets, un collègue de régime, qui était le docteur Basson. Ce qui explique, je pense, en partie le fait qu'il était acquitté.
Et il a réussi, on y reviendra, à exclure des débats tous les actes criminels commis ailleurs que en Afrique du Sud, à l'étranger, donc notamment, par exemple, en Namibie et aux États-Unis, ce qui explique que le docteur Basson n'ait pas été condamné pour la tentative d'assassinat du révérend. Voilà, eh bien, voilà, on a commencé à parler de ce sujet absolument passionnant. On se retrouve dans quelques instants, Julien. Avec Sandrine Lefranc et avec Tristan Mendès-France, avec eux deux, vous avez non pas des témoins directs des événements, mais en tout cas des gens qui ont cherché, qui sont informés et qui peuvent nous dire beaucoup de choses sur le contexte de toute cette histoire. Et c'est vrai que, je le disais hors micro à Tristan Mendès-France à l'instant, on peut se demander, on peut s'étonner, Et se rassurer en se disant que finalement la fameuse bombe ethnique là qui devait jouer sur la stérilité, engager la stérilité d'une partie de la population noire n'a jamais fonctionné, qu'elle n'a pas été mise en œuvre. En même temps, on s'étonne que le président du pays, comme De Klerk par exemple, qui a quand même témoigné au moment du changement de régime, a toujours dit mais moi non, j'étais pas au courant de tout ça. Tout le monde a menti pour vous
Non, je crois qu'il y a un mélange de... Bon, d'abord de choses que les gens ne savaient pas à l'époque. Je pense que le gouvernement même de l'apartheid n'était pas absolument au courant de toute l'étendue du projet, simplement parce que le projet du docteur Lamort avait carte blanche. Ils lui ont dit, on vous donne autant d'argent que vous voulez, nous on n'est pas des scientifiques, on est des militaires et on n'est même pas des intellectuels, mais on vous dit à vous, vous avez carte blanche. À partir de là, évidemment, le docteur Basson, lui, peut partir dans des délires qui peuvent surprendre encore aujourd'hui. Ouais. Il y a ça, il y a aussi des collaborations internationales qu'il y a eu et qui probablement mettent la communauté internationale très mal à l'aise et l'État sud-africain aujourd'hui.
On a tracé après les différents déplacements du docteur Basson à travers le monde.
Il a parcouru la planète de façon somptuaire et il a effectivement rencontré beaucoup de scientifiques internationaux l'Europe n'a pas été épargnée, les États-Unis n'ont pas été épargnés, beaucoup de pays très tendancieux comme l'Irak, la Corée du Nord, des choses comme ça, il a eu des contacts. Donc on sait qu'il s'est baladé, on ne sait pas très très bien si les pays qui l'accueillaient étaient absolument tout à fait au courant de qui il était, parce qu'évidemment c'est espion, c'est barbouzerie, donc tout le monde se cache ses identités, mais en tout cas il a parcouru la planète. Et à la fin des fins, c'est vrai que la communauté internationale s'est sentie très mal à l'aise, et l'Afrique du Sud, même libre, même après 94, avait la patate chaude du docteur Lamort entre les mains et ne savait pas quoi faire avec. Ouais. Et d'ailleurs, il a été acquitté.
Il est même passé en Suisse, pays neutre par excellence.
Oui, avec qui il a eu beaucoup de business.
Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas, vous le savez, l'un et l'autre faire en Suisse,
non, apparemment, il a eu des contacts assez élevés avec les autorités, les milieux de l'espionnage suisse. Il y a eu des collaborations, je crois, des recherches et peut-être même des trafics de produits. J'ai entendu parler d'ecstasy, mais je crois qu'il y a d'autres produits qui ont été apparemment l'objet de discussions entre la Suisse et l'Afrique du Sud durant l'apartheid.
Il faisait dans la drogue aussi, le docteur Lamort.
Il se trouve que la première fois où on l'a arrêté, ses premiers ennuis judiciaires à docteur Lamort, date de, évidemment, 98 dans ces eaux-là. Et quand il s'est fait arrêter dans sa voiture avec avec des dizaines de kilos, ouais. des sacs entiers d'ecstasy. Ouais. En fait, mais l'ecstasy est un produit qui peut être utilisé dans d'autres substances psychotropes complexes, ouais. etc.
Sans compter que ça lui a permis de rentabiliser aussi son savoir spécifique.
Et c'est un bon investissement.
Oui. On dit aussi, Sandrine Lefranc, qu'un certain nombre de recherches ont été financées par le biais du trafic de drogue. Ça a été dit au cours de ces fameuses...
Je n'ai pas de traces de preuves, mais de toute façon, les archives ont été détruites. Hein, donc, il serait difficile de savoir définitivement.
Alors, il faudrait peut-être faire un peu d'histoire et revenir sur tout ce qui a précédé la prise du pouvoir par Nelson Mandela en 94. Lui, il est libéré en 1990. Ce fameux projet complètement fou a été mis en place au milieu des années 80, donc à peine quelques années, 5-6 ans, quoi, ou 7 ans avant les libérations de Mandela. Ça veut dire que le régime de l'apartheid savait déjà que de toute façon il était inéluctable qu'un jour le régime change.
C'était une affaire aussi de logique démographique, de logique économique aussi, c'est-à-dire qu'il était intenable de continuer à contraindre une majorité de la population à travailler pour une minorité, donc c'était économiquement intenable. Et les négociations ont commencé au cours des années 1980. Donc il y avait à la fois des négociations en vue d'une possible libéralisation du régime, il y avait dans le même temps un projet qui consistait non pas à mettre à mort la population noire dans sa totalité, mais à la séparer, c'est-à-dire à la faire vivre dans un État voisin, associé étroitement à l'Afrique du Sud, puisque supposé fournir une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci et à bas coût, mais séparé. Donc ça, c'était un projet alternatif qui permettait de ne pas tout miser sur la mise à mort.
Ouais. Et hors micro, vous me disiez, j'aimerais bien que vous le répétiez, ce que je vous disais, mais finalement, heureusement, bon, la bombe ethnique là, pour stériliser les Noirs n'a finalement jamais été utilisée. Et vous m'avez dit, mais en fait, ils se sont aperçus que c'était beaucoup plus simple que ça, quoi.
Oui, ils ne se sont pas aperçus. Ils avaient les moyens d'assassiner sans trop de difficultés, sans trop d'opposition. Alors, une opposition internationale, certes, mais insuffisante. Il était assez simple d'assassiner, de torturer, sans avoir besoin de recourir à une science exacte de la bombe chimique ou quelque chose d'autre.
Oui, mais alors pourquoi on s'adresse, Tristan, à un personnage comme ça? Je veux dire, il y a eu des savants fous, des militaires fous.
J'arrive pas à très précisément estimer ce que le gouvernement sud-africain avait dans la tête en nommant le docteur Wouter Basson.
Tout seul, enfin, il y a toute une chaîne de commandement.
Oui, effectivement, c'était plutôt du domaine militaire, de l'initiative, en gros. Hein. Et encore une fois, je crois qu'il y avait un mélange de crainte, de parano, hein, disons-le très simplement, de parano à l'époque. Vous évoquiez dans votre introduction la crainte des pays voisins. Évidemment, ils mentionnaient souvent, j'ai lu...
Alimenté par l'URSS, évidemment, puisqu'on était encore...
Ce qui est effectivement une crainte pas forcément illégitime. Ouais. Mmh. Et pour l'Angola, je sais que plusieurs fois, j'ai entendu, j'ai lu dans des travaux du gouvernement de l'apartheid, que eux craignaient effectivement que l'Angola se dote de matériel de guerre biochimique. Ouais. Et donc l'idée, c'était...
C'était le bon prétexte pour créer le département, quoi.
Voilà, exactement. Et de dire, bon, si eux le font, autant prendre de l'avance, nous, tout de suite, commencer des travaux en puissance, pour voir d'abord ce qu'ils ont et pour pouvoir répliquer et éventuellement se battre. Parce que dans le programme COAST, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout un volet à peine plus légitime, qui est la défense, et donc acheter des masques à gaz, développer des tenues qui résisteraient à des attaques, etc. Ouais. Donc c'était un petit volet, ça.
Et ça permettait aussi, sans doute, d'atteindre plus facilement les leaders de l'opposition, j'imagine. Voilà. Le tout venant était moins facilement assassinable.
D'où ce que j'évoquais à la fin du récit tout à l'heure. Est-ce que ça a été prouvé ou pas que des fioles de sang prélevées sur des gens morts du sida ont certainement été utilisées pour éliminer spécifiquement un certain nombre de leaders?
Vous faites très très bien de le souligner, parce qu'il ne faut vraiment pas croire qu'évidemment le régime sud-africain
a créé le sida.
Ce qui, évidemment, tout le monde a... C'est une légende urbaine extrêmement forte.
Et on sait que scientifiquement, c'est...
Non, c'est évidemment pas le cas. Par contre, comme vous le disiez dans votre introduction, très justement, c'est évident qu'ils ont utilisé des souches de sida pour contaminer et tuer des opposants, en sachant qu'on ne pourra jamais faire la différence entre...
Puisque comme il y a beaucoup de personnes séropositives, finalement, aller savoir comment ils ont été contaminés, on ne pense pas forcément aux services secrets. Oui, en fait, quand je me suis penché sur ces questions, parce que je me souvenais du livre de Tristan Mendès-France, puis après j'ai trouvé celui de Sandrine Lefranc pour parler des commissions Vérité-Réconciliation. Je me acoustique, c'était l'exemple parfait au moment de la sortie du film, parce que le film n'est qu'un, j'allais dire, n'est qu'un film, un grand film, un peu hollywoodien bien sûr, qui a beaucoup de qualités, mais qui raconte une histoire
c'est
unique.
C'est une fiction.
C'est comme ça qu'on... Oui, mais une fiction qui s'appuie sur des choses très réelles, puisque Nelson Mandela a véritablement s'est dressé contre son parti, hein, contre l'ANC, qui voulait supprimer les Springboks. C'était le symbole du pouvoir blanc, et quand les Springboks se faisaient un match, les Noirs mettaient un point d'honneur à ne pas regarder les images et à regarder un autre programme à la télé. Mais il a exigé qu'on garde les Springboks, qu'on garde les couleurs, c'est ce que raconte ce film, les couleurs de vert et or de cette équipe de rugby, pour en faire un symbole d'unité nationale. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est reprise à la fin du film, et je ne vais pas tout vous raconter, parce que sinon vous n'aurez plus de plaisir à aller le voir, et moi je vous engage à aller le voir, mais c'est quand l'Afrique du Sud, ce qui est quand même un scoop, gagne un an après, en 95, la Coupe du Monde de rugby, ce qui était sur le papier, comme disent les turfistes,
pas
vraiment gagné. Il y a un reporter de la télévision qui fonce sur le terrain et qui va voir le capitaine, là, François Pinard, et qui lui dit mais bon, vous avez gagné, vous avez bien joué, c'est bien, vous êtes champion du monde, mais heureusement qu'il y avait vous étiez poussé par les 60 000 spectateurs du stade. Et à ce moment-là, le capitaine de l'équipe dit au reporter, non, j'étais soutenu par 43 millions de Sud-Africains. Et ça, c'était exactement ce que souhaitait Nelson Mandela. Mais peut-être, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, Sandrine Lefranc, peut-être quand même éclairer les choix de Nelson Mandela, parce que il faisait pas d'angélisme, hein, en décidant ce qu'il a décidé à propos de cette équipe.
D'une intelligence politique extrême, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le choix, il savait bien que s'il renonçait à s'appuyer sur la minorité blanche, c'est quelque chose comme 13% de la population, donc c'est une petite minorité propriétaire de la totalité du pays, presque, mais une petite minorité, c'était le pays entier qui disparaissait. Enfin, voilà.
Il avait besoin, en tout cas pendant la période de transition, que ceux qui tenaient l'économie ne soient pas trop... et des raisons d'aider la nouvelle Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud n'existait que comme ce pays partagé entre une minorité et une majorité. L'intelligence politique a consisté à afficher des symboles d'union parce que la réelle politique l'exigeait.
Ouais. Alors, pardon de mettre des sentiments dans ce que je vais dire, mais quand on entendu ce récit, tout ce dont on parle là, toutes ces exactions du temps de l'apartheid, et quand on voit qu'on a demandé quand même à des gens qui ont constaté et ont pu avoir la preuve de toutes ces exactions, quand on leur a demandé faut pardonner, on comprend le prix qu'ils ont dû payer.
On leur a pas demandé de pardonner.
Alors qu'est-ce qu'on leur a demandé?
On leur a pas demandé grand-chose, mais elles ont donné beaucoup, ces personnes, en règle générale. La commission demandait pas l'expression publique d'un pardon, elle demandait juste à certaines des victimes de dire ce qui s'était passé, c'est-à-dire ce qui était arrivé au leur, pour la plupart de ces victimes, qui étaient des femmes, des mères par exemple, d'hommes noirs sud-africains disparus ou assassinés. On leur demandait de raconter.
La police est venue. A pris mon mari, n'est jamais rentré, j'ai jamais su ce qui s'est passé.
Et voilà comment j'ai vécu par la suite, et voilà ce qu'ont été mes souffrances, et c'est une déclaration des faits et des sentiments liés au fait. Mais on leur a pas demandé de pardonner.
Pour que les victimes sachent qu'elles étaient entendues par les autres.
Alors ça, c'était effectivement, les auditions de la commission de vérité et de réconciliation, c'était essentiellement un rituel de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on demandait aux victimes de parler après avoir recueilli par écrit leur témoignage, et on le faisait parfois en allumant une bougie, souvent en commençant par une prière ou par une chanson, et puis en insistant lourdement sur des remerciements. Merci d'être là et de contribuer par votre récit à la construction de la nouvelle nation sud-africaine. Mais à aucun moment on a exigé d'elle qu'elle pardonne.
Il y avait le mot réconciliation quand même.
Et
dans
puis il y a le mot pardon. Enfin, Desmond Tutu, qui a été le personnage clé, le président de cette commission de vérité et de réconciliation sud-africaine, a beaucoup insisté sur le pardon, le langage du pardon, mais aussi en liant ça d'ailleurs à la réelle politique. Mais il n'y avait pas d'exigence de ce point de vue.
J'étais assez surpris, effectivement, en découvrant cette commission, et j'étais assez réservé sur l'idée que, tout bêtement, tout pardon implique qu'on ne juge pas quelque chose. Et ça me semblait problématique à l'époque. Mais j'ai très vite compris que, c'est une chose extrêmement complexe, une transition d'une dictature à une démocratie, ça se passe pas comme ça. Évidemment, moi naïvement, je me suis dit, mais faisons table rase. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait table rase?
C'est
simplement virer tous ceux qui sont en poste, les fonctionnaires, les policiers, les magistrats, etc. Bon, dans ma tête, je me disais, bon, il faut faire un nettoyage. Ouais. C'était un régime absolument immonde. Voilà. On va pas les laisser en place. Mmh. Et très vite, j'ai compris que les Sud-Africains ont aussi également pris ça en considération, qu'un pays, il faut que ça tienne. Et que pour que ça tienne, on ne peut pas faire table rase, surtout de l'appareil d'État précédent, dont on doit importer au moins une partie, quitte à ce que ça fasse très mal, importer une partie pour que ça soit encore viable. Effectivement, j'avais une réserve, et j'ai toujours un peu mal à l'aise par rapport à ça, mais je comprends qu'il y a une réelle politique derrière, c'est que si on enlève tous les fonctionnaires d'État, il n'y a plus d'État, et les CRET, le chaos total.
Et plus d'économie non plus.
Donc il y avait une intelligence, effectivement, politique à laisser les choses en place. Voilà.
On fait une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après. Avec Tristan Mendès-France et Sandrine Lefranc, les invités de Café Crime, on parle à la fois du docteur Lamort, on va y revenir tout à l'heure avec Tristan Mendès-France, mais on parle aussi de la commission Vérité et Réconciliation, parce que c'est vrai que c'est difficile, Sandrine Lefranc, à comprendre quand on est très extérieur au fait. Pourtant, on verra tout à l'heure avec vous, puisque vous en parlez dans votre livre « Politique du pardon » qui est paru au PUF, aux Presses universitaires de France, qu'il y a à peu près une trentaine de pays qui ont finalement... utiliser ce biais de commission de réconciliation pour dans des pays où évidemment une partie de la population avait été victime d'une violence d'État. Et alors question quand même au moment du passage au pouvoir, enfin de la prise de pouvoir par Mandela et par l'ANC, il n'y a pas eu d'exactions dans les rues, il n'y a pas eu d'assassinats ciblés, il n'y a pas eu de lynchage.
Le disait tout à l'heure, on a tendance, nous, depuis nos sièges confortables en France, à juger moralement la situation, c'est-à-dire à partir de catégories morales, et à ne pas comprendre pourquoi il n'y a pas de vengeance massive à l'égard de criminels aussi atroces et aussi parfaits qu'un Basson, ou de criminels plus ordinaires, comme il y en avait de nombreux en Afrique du Sud. Mais en fait, il faut bien voir... En Afrique du Sud, les victimes n'avaient pas le temps non plus de se préoccuper de cette vengeance. Ils devaient survivre. Donc ça, c'est une première préoccupation qui interdit bien des choses. Et de toute façon, la vengeance n'est en rien la réaction habituelle dans ce type de situation-là. D'après ce que je constate en Afrique du Sud, en Argentine ou ailleurs, c'est d'abord une demande de justice qui s'exprime.
Oui, mais les gens, le public, parce que j'imagine la presse a suivi ces débats de la commission Vérité et Réconciliation. Il y a des articles dans les journaux. La télévision a montré le visage d'un certain nombre de gens. Revenons sur Basson, par exemple. Personne n'a jamais essayé d'attenter à sa vie.
J'étais stupéfait. J'ai passé quand même quelques semaines durant les procès où lui venait au procès dans la salle d'audience. Il n'avait aucun garde.
Il comparaissait libre d'ailleurs.
Aucune sécurité. Il comparaissait libre, effectivement. Il n'y avait que ses avocats autour de lui.
Il y avait quand même des gens musclés autour, puisque quand vous lui avez parlé au cours d'une des audiences, vous le racontez dans votre livre.
C'était les services secrets.
Il y avait des baraques autour de lui.
Les services secrets sud-africains, étrangement, qu'il avait mis, qui avaient dit ça pour le protéger. Étrangement,
parce
qu'eux-mêmes craignaient vraisemblablement quelque chose éventuellement lui arrive. Oui. Mais en tout cas, moi, je l'ai croisé plusieurs fois. Effectivement, j'étais stupéfait dans la rue. Je me disais, mais mon Dieu, mais il est à portée de tout le monde. Même moi, si je veux, je lui mets une baffe d'ici. Donc j'étais à chaque fois, il venait tous les jours. C'était vraiment un rituel plusieurs fois par semaine. Oui. On allait au procès. Mm-hmm. Il venait tout seul. Il faisait un petit clin d'œil à la caméra en entrant. Tout se passait vraiment dans une ambiance où je voyais les gens le regardaient dans la rue. Il y avait des noirs effectivement qui jetaient un petit coup d'œil. Oui. Mais pas un mot, pas une invective. J'étais vraiment stupéfait.
Vous l'avez d'ailleurs suivi, si j'ose dire. Vous avez planqué pendant des heures pour essayer de créer la rencontre, parce que vous aviez demandé des autorisations officielles. On vous avait pas répondu. Et puis un jour, on vous fait savoir. Enfin, il vous regarde et il cherche votre regard. Là où vous allez avoir ce contact.
C'est mon premier contact avec lui, puisqu'on voit aussi le personnage, le côté un peu très peu sympathique. Je suis dans la salle d'audience avec lui, et il m'a identifié comme quelqu'un qui était intéressé par son affaire. Il vient vers moi, et il me dit, là je vous garantis que c'est vrai, j'ai des témoignages autour de moi, il vient vers moi, il me dit, écoutez voilà, je vais vous donner un petit morceau de papier, il me donne, il y a un numéro de téléphone, vous pouvez appeler, mais je vous le dis, comme je vous vois maintenant, si vous donnez ce papier à la presse ou à d'autres médias, je vous tue. On est dans la salle d'audience.
Je vous tue.
Et il conclut, il me regarde, il dit, mais je rigole.
Oui, alors, bien sûr.
Bon, au-delà de l'humour, moi-même, j'étais quand même surpris que dans une salle d'audience, quand on est accusé, on ne va pas s'amuser à ce genre de blague, surtout quand on est face à quelqu'un qui est plus ou moins journaliste. Ouais, en tout cas, il a eu absolument pas peur. Donc, il me donne ce petit papier, et j'appelle ce numéro de téléphone pour essayer de prendre un contact, et je tombe sur une barbouze pas nette qui me dit, oui, vous pouvez interviewer Docteur Lamort en exclusivité mondiale, ce que vous voulez, pour 4 millions de dollars. Voilà. Donc, je dis, il avait gardé quand même à l'esprit une certaine logique économique dans son stress.
Oui.
Donc, évidemment, on n'a absolument pas payé la
4 millions de dollars.
4 millions de dollars pour pouvoir l'interroger.
Ou alors, vous pouviez aussi acheter une interview qu'il avait donnée,
éventuellement d'autres images qu'on pouvait également acheter.
Mais c'était à vendre, quoi.
Oui. Donc, tout ça, c'était une question de fric et d'argent. C'est extrêmement désolant. Ouais. Et encore une fois, ce personne-là l'a fait en plein milieu de la salle d'audience.
Ouais.
Je sais pas, on fait pas ça publiquement. On fait ça, on est discret quand on fait ce genre de choses. Pas du tout. Il avait absolument aucune crainte. Donc, vraisemblablement, le docteur Basson savait dès le début, même quand je l'avais rencontré, qu'il n'irait pas d'ennui judiciaire.
Voilà. Alors, pourquoi? On va peut-être y revenir dans un petit instant après une nouvelle pause. Encore une petite mise au point, quand même, parce que on l'a bien dit clairement tout à l'heure, tous, qu'il y avait une rumeur, ce que Tristan Mendès-France a appelé une légende urbaine, sont ces espèces de légendes du 20e et du 21e siècle qui attribuent à ce médecin d'avoir créé dans son laboratoire, comme un docteur Paul Amour, le virus du sida. Alors, il faut se rappeler que le génie génétique étant ce qu'il était dans ces années-là, c'est absolument hors de propos, et que, bien entendu, les scientifiques se sont posés ces questions, mais qu'ils y ont répondu, et que, donc, on peut... vous êtes catégorique aussi, Sandrine Lefranc.
Il faut surtout pas prêter à Basson davantage que ce qui lui revient.
Voilà,
il n'est pas un savant miraculeux.
Voilà, c'est déjà pas mal ce qu'il a fait. Donc, il n'a pas fait ça, et on ne doit pas au service secret sud-africain l'arrivée du virus du sida. C'est clair, on n'y revient plus, mais il fallait le redire. Alors, on reviendra à Basson tout à l'heure. Il y avait une question, pourquoi il a été innocenté. Et d'ailleurs, il y a des auditeurs qui disent, mais pourquoi cet homme-là n'a pas été traîné devant la justice internationale? Parce que finalement, la teneur, la nature de ses projets s'apparente à un projet de crime contre l'humanité, finalement. Est-ce que la question s'est posée? Est-ce que vous savez cela, l'un ou l'autre?
Ma connaissance, non, mais enfin, on peut toujours imaginer, à coup de réinterprétation des catégories juridiques, que ce soit faisable. Simplement, la justice internationale a beaucoup de travail devant elle.
Oui. Et donc, le docteur Basson, disons-le, je ne sais pas si on l'a dit clairement, parce qu'on en a parlé hors micro, mais il va bien, il est toujours dans les faubourgs de Pretoria, il est cardiologue.
Comme la plupart des membres des forces de sécurité sud-africaines.
De cette époque, donc et il se promène librement.
Il est cardiologue dans un hôpital public de Pretoria, un hôpital pour pauvres.
J'y suis allé,
dont 99% des
malades sont des patients noirs.
Sauf qu'on a vu qu'il était très préoccupé par la rentabilisation, donc il a aussi quelques malades un peu riches, et il a notamment Malan, qui est un autre grand criminel de l'Afrique du Sud, où il a été le docteur privé de certains autres grands criminels.
Il est extrêmement protégé, on peut appeler ça comme ça. Alors, est-ce qu'il est protégé parce que il pourrait, vous savez, ces genres de phrases de gens qui sont accusés, qui disent j'ai de quoi faire sauter la République, il a peut-être de quoi faire sauter vraiment l'Afrique du Sud avec des révélations éventuelles qu'il pourrait
faire. Ce n'est pas impossible, et puis il a une expertise qui est quand même assez précieuse, j'imagine, à l'échelle internationale. Alors, pas forcément une expertise scientifique, mais en tout cas une manière d'organiser ce type de recherche à finalité militaire qui doit être à ses côtés sur le plan international.
Oui, il y a eu des craintes aussi, que je rapporte simplement. Les autorités sud-africaines après 94 ont eu peur, et ça a été mentionné, que Basson, s'il s'échappe, parte avec un savoir-faire extrêmement inquiétant, et qu'il aille dans des pays où, à l'époque,
ils sont appelés des états voyous,
et simplement donne son savoir-faire. Et donc, on avait conseillé apparemment au nouveau gouvernement, notamment de Mandela, non seulement de pas virer Basson, de le garder, de le laisser dans l'administration militaire, ce qui fait que Basson a un titre militaire aujourd'hui, qui est gradé,
il est toujours
dans l'armée,
et c'était une phase toujours payée.
Ouais. Et on m'a dit, d'ailleurs j'ai posé la question au révérend Franck Chicane, j'ai dit mais pourquoi est-ce que Basson est encore en place? Ouais. Il m'a dit, écoutez, c'est le meilleur moyen de contrôler un individu, c'est de le laisser dans l'administration militaire, il n'a pas le droit de sortir, de quitter le pays, il est très contrôlé, il est cadré, c'est la meilleure façon qu'on a de le contrôler, c'est de le laisser en poste en tant que militaire. assez surprenant, mais c'est ce que le révérend Frank Chicanet, donc l'une des victimes du programme COS, m'a dit face caméra. Ouais.
Mais il n'y a aucune volonté de le condamner pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire que entre le moment du procès qu'on évoquait tout à l'heure et aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui a été votée par le Parlement sud-africain qui inclut maintenant les crimes, on peut imputer à quelqu'un des crimes commis à l'étranger, ce qui n'était pas le cas au moment de son procès, mais c'est pas pour ça qu'on a ouvert, Sandrine Lefranc, un deuxième procès Basson.
À ma connaissance, les extensions dans les pays voisins de ce qui s'est joué en Afrique du Sud, c'est un chapitre que les gouvernements ne souhaitent pas ouvrir, d'une part, et ensuite les matériaux ont disparu, j'ai dit tout à l'heure que les archives avaient disparu, et puis par ailleurs, de toute façon, la tendance générale et la volonté du gouvernement, c'est de ne pas faire justice. Ouais. C'est-à-dire que les poursuites judiciaires sont toujours possibles, non seulement à l'encontre d'un criminel de cette envergure, mais à l'égard aussi de tous les petits criminels, mais les poursuites judiciaires n'ont pas lieu. Elles sont théoriquement possibles.
Il y a aussi autre chose qui est assez aberrant. Ils ont refusé, donc, effectivement, d'intégrer dans l'accusation tout ce qui avait été fait hors d'Afrique du Sud, tous les meurtres qui avaient été commis hors d'Afrique du Sud. Mm-hmm. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a une majorité de gens qui ont été tués sur le sol sud-africain. Donc, ils ont été tués en Afrique du Sud. Ouais. Simplement, on a jeté les corps hors du pays.
À la mer aussi.
Donc c'est facile après de dire, on a jeté le corps du pays, donc maintenant c'est plus ma juridiction, donc on va pas accuser le docteur Lamort de tout ça, les corps est tombé de l'autre côté de la frontière. Ouais. Donc c'est des arguments qui sont effectivement assez effrayants et assez inquiétants. Ouais.
Parce qu'on l'avait accusé, il y a des témoins d'ailleurs qui sont venus renforcer ces accusations d'avoir été présent dans des hélicoptères où il avait piqué avec un produit tranquillisant, on va dire, des gens dont on s'est débarrassé des corps en survolant les eaux internationales ou les eaux d'un pays voisin.
Technique assez fréquemment utilisée. En Argentine, on a utilisé le même type de choses. Oui, il a peut-être été personnellement impliqué, mais de toute façon,
il y a des témoignages, effectivement.
La justice s'est prononcée et il est libre. Ouais. Point.
Bon. Alors, dans un petit instant, on reviendra à vous, Sandrine Lefranc, pour parler du bilan de cette commission Vérité-Réconciliation, quand même, qui a travaillé pendant 2 ans, je crois.
3 ans.
3 ans, bon. Et puis aussi de toutes les autres comités ou commissions qui existent dans d'autres pays du monde pour voir à quoi ça sert, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Mais comme il nous reste quelques instants avant, Tristan Mendes-France peut peut-être reparler de ce reportage et de cette enquête que vous avez faite sur place. Vous avez voulu, c'était bien naturel, mais encore fallait-il le faire, voir de vos yeux le laboratoire du docteur Lamort.
J'ai eu une chance absolument incroyable.
Dans les environs de Pretoria.
Absolument. Hein. Je pensais pas du tout que d'abord... D'abord, il y avait un procès en cours, mais il se trouve que, je ne sais pas si je peux le dire, mais enfin bon, disons le procureur, notamment l'équipe du procureur, m'ont donné des informations, notamment des adresses, quelques petites choses qui avaient circulé ça et là, et j'ai obtenu donc l'adresse de l'ancien laboratoire du docteur Lamort, qui sont le laboratoire de Rhodes Platt, c'est comme ça qu'on dit, et de façon extraordinaire, j'ai appelé ce fameux laboratoire, et je suis tombé sur une dame qui faisait plus ou moins le standard et qui était contre le régime de l'apartheid. Et donc elle m'a dit, écoutez, je logiquement vous n'avez pas le droit de venir dans ces nouveaux laboratoires, même si le docteur Lamort, c'est un processus assez complexe, mais elle me dit, ce qui s'est passé ici est tellement horrible que je suis prêt, moi, à vous faire une petite visite dans l'après-midi si vous venez là tout de suite dans les quelques heures, sans l'autorisation de l'administration, etc., ce qui aurait été refusé de toute façon. Ouais. Et donc elle nous a très gentiment ouvert la porte et on s'est baladé vraiment librement dans les laboratoires jusqu'à ce qu'elle nous emmène dans une salle qui ne ressemble à rien de particulier, si c'est
un
laboratoire,
quoi,
un labo.
Avec une paillasse, avec
et elle me dit, à un moment donné, je regarde, et puis elle me dit, vous êtes exactement là où travaillait Basson. Et là, évidemment, je commence à regarder un petit peu autour de moi, et là, je réalise que c'est dans ce laboratoire que probablement, ça c'est des témoignages encore une fois, des corps d'humains sont passés. De noir, évidemment. Ouais. Des expérimentations sur humains. On n'est pas en 40, là. On est quand même dans les années 90, presque. Hein. Des expérimentations sur humains ont été faites. Des cobayes humains. Donc j'étais effectivement dans cette pièce, j'étais assez mal à l'aise. Ouais. Et la dernière étape de ma visite, c'était dans un crématorium. une sorte de industriel, une sorte d'énorme espace dans lequel la dame m'a expliqué que toutes les preuves, et notamment des humains, des corps humains, ont été jetés dans ce. J'ai quelques images de ce sorte de crématorium, je sais pas comment on appelle ça, crématorium, plus ou moins, enfin bon, quelque chose pour brûler pas uniquement les corps, mais aussi le matériel, etc., ou les animaux sur lesquels ils faisaient des expérimentations.
Ah oui, ils étaient allés jusqu'à acheter un zoo, je crois, les animaux d'un zoo.
Il leur fallait énormément de, je crois, de babouins, de singes, pour faire des expérimentations de base, mais par contre, ils ont fait des expérimentations sur humains, j'ai des témoignages, bon, je veux pas rentrer dans le détail, mais enfin, il y en avait notamment un qui m'a particulièrement frappé. Ils auraient attaché autour d'un arbre qui était pas loin du laboratoire quelques individus noirs qui étaient attachés par les mains, donc autour de l'arbre. Ouais. Ils auraient mis une sorte de pommade, tenté de mettre des pommades sur chacun des individus pour voir des pommades qui étaient supposées les tuer et de voir combien de temps est-ce qu'il fallait pour qu'ils meurent en les laissant la nuit et en revenant le lendemain matin pour voir qu'ils étaient vivants. Bon voilà, ce genre de choses qui est horrible mais qui est malheureusement le lot quotidien des noirs pendant l'apartheid.
Ouais. Alors, on va écouter avec beaucoup d'attention ce que va nous dire Sandrine Lefranc sur à quoi a servi cette commission Vérité-Réconciliation. On en parle dans un tout petit instant. Et alors, on va s'arrêter avec Sandrine Lefranc. Je rappelle qu'elle est chercheuse en sciences politiques, elle travaille au CNRS et qu'elle a publié un livre qui s'intitule « Politique au pluriel », le mot « politique du pardon », qui est paru au PUF, aux presses universitaires de France. Avec vous, parlons déjà de cette comité Vérité-Réconciliation d'Afrique du Sud. 3 ans, donc, vous m'avez dit. Ça a duré 3 ans.
De 1995 à 1998, c'est-à-dire juste après la mise en place d'un nouveau gouvernement démocratique, après les élections d'avril 1994. Oui. C'est quelque chose d'assez énorme, la commission Vérité-Réconciliation sud-africaine. C'est quelque chose d'assez énorme, c'est-à-dire qu'il faudrait s'imaginer ce que ça pourrait donner en France par rapport à la guerre d'Algérie ou par rapport à Vichy. Oui. C'est énorme, d'abord parce qu'on a voulu réécrire l'histoire de l'Afrique du Sud, ou en tout cas les 30 ou 40 dernières années, et qu'on a voulu les réécrire avec, d'une certaine manière, l'aide des victimes. C'est-à-dire qu'on a, je l'ai dit tout à l'heure, fait parler les victimes. On a voulu en même temps essayer de régler la question judiciaire des poursuites contre les criminels ou les complices, enfin les responsables de violences politiques.
Et on a composé soigneusement donc les gens qui allaient entendre cela, qui n'étaient pas des magistrats. Donc,
Pour le comité, pour l'amnistie, c'était assez largement des professionnels. Mais l'idée générale, elle est triple, c'est-à-dire que vous avez insisté tout à l'heure sur le fait qu'on a voulu représenter les différents groupes raciaux conformément aux catégories de l'apartheid.
6 blancs, 7 noirs, 2 métis, 2 personnes d'origine indienne.
Des femmes, des hommes, mais il y avait aussi des groupes professionnels. Il y avait des groupes professionnels qui étaient représentés, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'universitaires et de juristes, mais on avait aussi beaucoup de religieux, parce que ça compte en Afrique du Sud, c'est décisif, le pardon. Et aussi beaucoup de représentants de groupes de professions médicales qui avaient participé à l'allègement, à l'adoucissement de la répression de l'apartheid. Et ça a fait la logique.
Ouais. Et alors, c'était un travail de Romain pour faire le tri.
400 personnes, cas au pic, au fait de l'activité de la commission, ça a été un travail effectivement absolument énorme. Mais ça n'a finalement traité qu'une toute petite partie du problème. Hélas, la commission, dans son rapport, a indiqué un peu plus de 9000 morts, assassinats, et quelques 50 000 violations graves des droits de l'homme. C'est vraiment une toute petite portion des crimes qui ont été commis en Afrique du Sud.
Ouais. Et c'était pas forcément les pires. C'était ceux où il y avait des témoins.
Je ne sais pas quels sont les pires des crimes. En fait, on s'attache beaucoup à suivre les pas de Bassonne et à essayer de rechercher les crimes parfaits, les crimes parfaitement sophistiqués.
Il y a des tout petits crimes qui valent la peine.
Et puis en Afrique du Sud, les assassinats, les disparitions ont été des crimes importants et massifs. Ouais. Mais l'Afrique du Sud a pour particularité, notamment par rapport à d'autres dictatures en Argentine, au Chili ou ailleurs, d'avoir surtout commis énormément d'injustices quotidiennes, c'est-à-dire de déplacement forcé des populations, on n'avait pas le droit d'épouser la personne que l'on souhaitait épouser si elle appartenait à un autre groupe racial. Donc il y avait surtout cette manière d'organiser au quotidien les relations humaines,
etc. Tout le monde le savait par le bouche à oreille, tout le monde savait ça, mais il fallait le sacraliser en l'exprimant publiquement.
Que la répression avait lieu.
Est-ce qu'il y a des blancs qui ont, par exemple, qui ont découvert un certain nombre de choses?
Je doute qu'ils aient découvert que la majorité noire était une main d'œuvre opprimée au quotidien, déplacée en masse. Par contre, Ce qui a pu être découvert, encore que, hein, il faudrait aller voir du côté des traces qui en restent aujourd'hui, mais ce qui a pu être découvert, c'est le sens qu'avaient ces choses-là. Il y a par exemple quelque chose qui reste une interprétation générale du régime d'apartheid, c'était l'idée que finalement c'était des excès individuels. Voilà, c'était un cadre d'injustice et qu'il y avait quelques fous furieux façon Bassan, qui, parce que eux-mêmes avaient du mal à résister à leurs pulsions, assassinaient, torturaient, etc. Et ce qui a pu être découvert au travers des travaux de la commission, c'était que c'était un système de répression organisé, systématique, pas des excès individuels.
Ouais. Quand on fait la comparaison avec les nazis, par exemple, le national-socialisme de l'époque d'Hitler, est-ce qu'on est loin, on est voisin Qu'est-ce qu'on peut dire de ça?
Je suis absolument incapable de faire des hiérarchies de ce type-là, mais par contre, si vous voulez qu'on compare ce qu'il en est du côté de l'idéologie, je pense qu'on en est assez loin, oui. C'est-à-dire que effectivement, Bassan peut être perçu comme un fou raciste, voulant supprimer la race noire, mais globalement, l'apartheid, c'était d'abord une logique qui permettait à une minorité de jouir de tous les privilèges quand la majorité était
exclue. Ce qu'on appelait le développement séparé, l'apartheid.
Tout ça est de la bonne logique quotidienne et pas une folie idéologique.
Ouais. Et alors pourquoi ça s'arrête un jour? Parce que ça dure 3 ans.
Parce que ça ne peut pas tenir, parce que la population, enfin les équilibres de population étant ce qu'ils sont, et puis aussi les exigences, il fallait une main-d'œuvre noire de plus en plus formée, mais la main-d'œuvre noire de plus en plus formée, elle est aussi de plus en plus à même de revendiquer une citoyenneté, donc ça ne pouvait pas tenir la route longtemps. Plus des condamnations internationales, plus un blocus économique, ça ne pouvait pas marcher plus longtemps que ça. On peut exploiter 10, 20, 30, 40, 50 ans, mais à un moment ça s'essouffle. D'accord. Donc il fallait trouver un autre moyen.
D'accord, oui, mais alors la commission, quand est-ce qu'elle décide de mettre la clé sous la porte en disant voilà, on a fait notre travail au bout de 3 ans, est-ce qu'il y a eu un événement? Elle n'a pas décidé d'elle-même.
C'est le gouvernement qui a décidé, Nelson Mandela, et le gouvernement qui était.
Qui ont dit voilà, maintenant c'est
et le Parlement qui a voté la loi. C'est-à-dire que l'idée globale de ce type de dispositif, c'est qu'on ne va quand même pas passer encore 10, 20 ans à en parler. C'est qu'il faut passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, il faut qu'on dise le mandat de cette commission sera court. Et donc 3 ans, c'est ce qui est absolument déraisonnable de demander à quelques personnes d'écrire l'histoire de l'Afrique du Sud en 3 ans. Mais c'est l'idée.
D'autant que si je regarde l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, c'est vrai que très prospectivement, on peut se poser beaucoup de questions sur la commission Réconciliation en Vérité. J'ai beaucoup de mal à la critiquer, mais...
Vous voulez bien la critique dans un petit instant?
Avec plaisir.
Il faut faire une pause, donc on en profite tout de suite et puis on en reparle après. Dernière partie donc de Café Crime avec Tristan Mendès-France et Sandrine Lefranc. Et je reviens à vous, Tristan Mendès-France, puisque je vous ai coupé en plein vol là, au moment où vous alliez parler de votre sentiment par rapport à quoi a servi cette commission Vérité et Réconciliation.
Oui, effectivement, je me demandais, pour poursuivre la conversation, effectivement, si la commission n'avait pas eu assez de moyens et assez de temps pour vraiment faire un travail en profondeur. Et j'ai envie de dire, pour preuve, l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Il me semble que l'Afrique du Sud d'aujourd'hui est un pays qui va mal, qui est fissuré, qui a vraisemblablement un problème de cohésion. La société a un problème de cohésion, et je lis ça évidemment avec les troubles d'un passé qui n'ont pas en commun. Le passé des Sud-Africains aujourd'hui est multiple, brisé, fracturé, et j'ai peur que l'unité de l'Afrique du Sud soit un peu mise à mal. Bon, ce que je dis, je rebondis évidemment sur les actualités récentes de ces derniers mois.
C'est pas à cause de la commission
Réconciliation et Liberté. C'est disons une transition, je dirais, à mon modeste niveau, c'est une transition mal gérée d'une dictature à une démocratie qui fait que on a des scories qui restent aujourd'hui, qui sont terribles et violents dans les shanty towns aujourd'hui, où on voit des populations noires entre elles commettre des horreurs entre des immigrants, et enfin bref, bon, c'est la population, c'est des injustices absolument immondes. Tout ça, j'ai l'impression que quelque part, si une transition avait été faite avec une bonne qualité, on aurait peut-être une meilleure Afrique du Sud aujourd'hui.
Voilà. Oui. Alors, c'est peut-être attendre beaucoup de la transition que de régler aussi tout ce qui est problème d'ordre socio-économique plus généralement, mais j'ai juste un exemple pour effectivement pour essayer de savoir ce qu'il en est du bilan de la commission, même si on est absolument incapable de tirer un bilan de l'activité d'une institution, surtout quand on en attend la réconciliation, la fin du racisme, un accord sur l'histoire, la fin de la violence, enfin tout. De ce point de vue-là, juste un sondage vaut ce qu'il vaut, mais on a des sondages qui montrent aujourd'hui que quelque chose comme 50% des Blancs, et il me semble quelque chose comme 35% des Africains, des Noirs sud-africains, sont d'accord pour dire que finalement l'apartheid c'était un ensemble de bonnes idées. C'est-à-dire que d'une certaine manière, malgré le travail de la Commission de vérité et de réconciliation, malgré le travail fait, non pas dans les auditions des victimes, mais dans des auditions institutionnelles pour mettre l'accent sur le caractère structurel de l'oppression, oui. Ce qu'il en est resté, c'est l'idée que c'était des excès individuels. Donc il y a un ratage de ce côté-là sur la capacité à reconstruire, à transmettre un récit historique. Pour certains, la Commission, elle a eu d'énormes qualités, enfin c'est quelque chose qui compte, mais pour certains, la Commission a surtout été quelque chose qui a fantasmé les universitaires et les journalistes des pays occidentaux et une partie de la population libérale sud-africaine. Mais ça n'est pas beaucoup allé au-delà.
Je vais être honnête, j'ai regardé beaucoup d'heures de cette commission réconciliation et vérité, et je vous le dis très simplement, j'ai pleuré. Ça m'est arrivé plusieurs fois.
Devant certains témoignages...
On appelle ça le tribunal des larmes.
On l'a appelé comme ça. Oui.
C'est assez effarant. D'ailleurs, c'est même parfois un petit peu gênant. Enfin bon, en tout cas, j'ai vu plusieurs heures de ces genres de cassettes et on voit Desmond Tutu qui vit vraiment avec le témoignage de la personne qui parle avec ses mots, c'est pas des intellectuels, avec leurs mots. Et on voit vraiment Tutu qui est une sorte qui vit ce témoignage-là et qui pleure véritablement. Il se cache pas. Il est plié, il a la tête sur la table. Je veux dire, donc c'est pas, ça va au-delà de ce qu'il peut tenir physiquement. Et en moi-même, en écoutant beaucoup de ces témoignages et surtout les témoignages de gens qui sont pas des intellectuels, qui sont vraiment des gens du peuple avec leurs mots, avec leurs troubles, j'avoue que ça m'avait un peu traumatisé. J'ai pleuré, j'ai eu une larme à l'œil en regardant ça. C'était vraiment assez éprouvant. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une catharsis? Alors est-ce qu'elle est utile à terme? Je sais pas. En tout cas, pour le ressenti moi effectivement d'occidental en voyant ça, j'ai été bouleversé.
Bouleversant, mais ça montre bien le fait que ce soit bouleversant montre bien aussi la nature de l'exercice, c'est-à-dire que d'une certaine manière, catharsis, thérapie, on a opté, mais aussi parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autrement, parce qu'on n'avait pas la justice, parce qu'on n'avait pas les moyens d'une redistribution des ressources socio-économiques. Ouais. On a demandé à cette commission de faire un travail qui relevait de la thérapie collective. Simplement, on peut pas faire une thérapie collective lorsqu'il s'agit de crimes de masse et d'injustice socio-économique massive. Ouais. Ça marche pas. Ouais.
Mais là, on parlait de plus de 30 pays qui ont adopté finalement des commissions comparables. Vous pouvez nous en dire un mot puisque vous en parlez évidemment dans votre livre. Vous parlez de la commission Vérité et Réconciliation sud-africaine, mais aussi de beaucoup d'autres exemples dans beaucoup d'autres pays.
Les commissions de vérité, parfois les commissions de vérité et de réconciliation, c'est l'institution que l'on met en place, c'est des gouvernements, souvent avec l'appui d'organisations internationales.
Quel pays, par exemple?
En Argentine, d'une certaine manière, au Chili, au Maroc, d'une certaine manière, en Sierra Leone. Enfin, il y en a une quantité non négligeable. Et pourquoi il y en a beaucoup? D'abord parce qu'il y a une intense activité de promotion du modèle, et surtout du modèle sud-africain à l'échelle internationale, mais aussi et surtout parce que c'est ce qu'on met en place quand on n'a pas les moyens de rendre justice. Par exemple, quand ceux qui ont été à l'origine d'une politique de répression, les dictateurs restent des gens puissants et qu'on ne peut pas les écarter du revers de la main ou les poursuivre en justice. Donc quand on fait avec des gens qui gardent un pouvoir qu'on n'a pas les moyens de rendre la justice, qu'on ne peut pas non plus opter pour une épuration massive, c'est-à-dire les mettre à la retraite du jour au lendemain, on essaye de mettre en place des choses de ce type, des compromis. Des compromis avec les sortants qui soient en même temps satisfaisants pour les victimes. Mais c'est du compromis.
Voilà. Bien sûr. Bon. Ça, enfin, en tout cas, ça ne retire pas mon admiration pour ceux qui ont accepté de donner leur pardon quand même. Quand on voit le film, là, je reviens au film qui sort aujourd'hui, là, de Clint Eastwood. Allez le voir. Et puis, ayant entendu cette émission, je crois que ça sera intéressant. Vous l'avez vu, Sandrine Lefranc?
Pas encore.
Et vous, Tristan?
Oui, j'ai vu. J'ai trouvé. Je trouve que c'est important qu'on puisse voir un film comme ça, un film populaire que un maximum de gens puissent voir, pour qu'on sache ce qui s'est passé, qu'on retrouve Mandela à une période glorieuse de sa vie.
Très bien, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, Tristan Mendès-France, Docteur la mort, on le trouve aux éditions Favre, et Sandrine Lefranc, Politique au pluriel, Politique du pardon, aux éditions Presse universitaire de France. Merci à tous.